soit débordée sur la vie de ton serviteur au nom de Christ Jésus. Que son intelligence, Seigneur, soit renouvelée au nom de Christ Jésus. Que ta sagesse, qui est la sagesse divine, Seigneur, soit son partage au nom puissant de Christ Jésus. Accorde-lui maintenant, Seigneur, la connaissance de ta parole au nom de Christ Jésus. Donne-lui maintenant une puissante révélation, Seigneur, au-delà de ce qu'il a reçu encore de toi au nom puissant de Christ Jésus. Et donne maintenant, Seigneur, à ce que chacun de nos cœurs, Seigneur, soit si concis au nom de Christ Jésus pour recevoir cette semence, Seigneur. Laisse maintenant, éternel mon Dieu, mon roi, que ta main soit sur chacune de nos vies afin que nous recevions cette semence, Seigneur. L'utiliser et que cela germe en chacun de nous. À toi soit la gloire, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons adoré.
Amen.
On acclame le Seigneur. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. La communication prenne des dispositions parce que j'ai dit que la pile est faible. Ce n'est pas en plein interprétation qu'on va me dire qu'il n'y a pas de pile.
Rendons grâce à Dieu
pour
toutes les choses merveilleuses qu'il fait au milieu de nous.
Et
il en fait chaque jour de plus en plus. La tentation pour nous est de regarder tous les jours ce qui ne va pas encore bien.
Et
en vérité, tous les jours, il y aura des choses qui ne vont pas bien.
Et
si nous devons déterminer notre bonheur par rapport à ce qui ne va pas encore bien, nous ne serons jamais heureux. Le bonheur vient de la contemplation de ce qui va déjà bien.
Et
l'inquiétude vient de la contemplation de ce qui ne va pas encore bien. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne nous inquiéter de rien. Mais qu'en toutes circonstances, nous devons plutôt lui adresser des louanges et des actions de grâce. Quand nous louons Dieu,
c'est-à-dire
quand nous faisons le zoom sur ce qu'il a déjà fait, d'abord, on ne peut pas faire en même temps le zoom sur ce qui ne va pas bien. Une caméra ne peut pas faire le zoom sur une personne en faisant le zoom sur une autre personne. Quand vous faites le zoom sur les merveilles du Seigneur, vous n'avez plus de temps, ni Dieu, ni quoi que ce soit pour regarder les problèmes.
Or,
comment nous nous sentons la paix qui est en nous dépend de ce que nous voyons, pas de ce qui
est.
Quand tu te concentres sur ce qui donne la paix, tu es en paix. Quand tu te concentres sur ce qui donne de l'inquiétude, tu seras dans l'inquiétude. Nous devons donc faire le bon choix. Celui de louer Dieu tout le temps, car de lui découle la joie et la paix. Je rends particulièrement grâce à Dieu parce qu'il nous fait grandir. Il nous fait grandir nous-mêmes qui sommes devant vous. Il vous fait grandir. Et ensemble, comme famille, nous fait grandir. Et les signes de cela sont visibles. Et le rythme auquel nous grandissons me rassure. Parce que je sais que le Seigneur nous envoie loin. Et des fois, humainement, je me demande, mais comment on va y arriver? Mais quand je vois le rythme auquel le Seigneur nous fait marcher, je suis rassuré qu'à ce rythme-là, nous allons y arriver. Et l'une des choses qui m'a le plus réjoui aujourd'hui, c'est que j'ai la démonstration que Dieu a fait quelque chose ici. J'ai la démonstration que cette Pentecôte-là, nous ne l'avons pas fêtée, nous l'avons vécue. Et c'est la première vraie Pentecôte de ma vie et je crois que je le vois en direct là. Je vous ai toujours dit ici que pour savoir le niveau de maturité de quelqu'un, il faut voir les requêtes qu'il fait. Un enfant ne demande que bonbons, biscuits, pizza, glace, chocolat à ses parents. Mais quand un enfant commence à parler de son avenir, de son étude, de sa réputation, tu sais que ça, ce n'est plus un bébé, c'est un enfant d'un certain âge. Et les requêtes que nous faisons déterminent les choses que nous recevons de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous donne aussi. Et c'est selon ce que Dieu nous donne que nous témoignons. C'est-à-dire qu'en observant les témoignages des gens, on peut savoir sur quoi ils prient et qu'est-ce qui est important pour eux. Et même si je ne l'ai jamais commenté, j'ai toujours suivi vos témoignages. Et ce jour est le premier jour où 90% des témoignages disent que Dieu a fait quelque chose de grand, non pas pour eux, mais à travers eux. C'est la preuve que ce centre a changé.
Alléluia. Le boy qui nous dit de nous mettre et c'est quand on est coroté, on a été au camp des hommes. Le boy il a pas mis un homme dans le milieu, mais il donne nous mau. Le boy mau zami, ben il doit dire mau wande nous mettre sur nos lèvres. À moi bon, mais même pour toi wande.
C'est pas qu'il est mauvais que Dieu fasse des choses pour nous. Mais des témoins, j'ai reçu ma moto, j'ai reçu ma maison, j'ai reçu mon emploi, c'est bon. Mais ça veut dire que nous sommes encore au niveau de nous-mêmes et de Dieu. Mais quand 9 témoins, je dis, sont des témoins, je commande Dieu à sauver des gens par notre main. Cela veut dire que nous sommes en train de devenir des vrais enfants de Dieu. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que c'est quelque chose d'important pour lequel il faut continuer de prier. Quand Dieu nous utilise pour les autres, c'est qu'il s'occupe lui-même de nos problèmes. Mais quand nous nous concentrons sur nos besoins, ce n'est pas vrai que Dieu nous bénit beaucoup et encore moins qu'il bénit d'autres à travers nous. Donc je vous exhorte à passer plus de temps dans la prière et à consacrer plus de votre vie aux autres. Parce que nous n'avons pas vocation simplement à écouter Dieu pour nous. Nous avons vocation à réveiller ce pays-là spirituellement. Et plus généralement dans le monde. Donc, nous devons commencer à nous inquiéter dans le bon sens, pour prier pour le monde et pour le bénin, plus seulement pour nous. Vos témoignages aussi sont la preuve qu'on n'a pas besoin de consacrer quelqu'un pasteur, prophète ou je ne sais trop quoi pour faire des miracles. Et je remercie Dieu qui honore sa parole en vous prouvant que je ne blague pas. Toute personne qui croit en Jésus a reçu le pouvoir de faire des miracles, ce n'est pas un paresseux et un méchant.
Et
Il n'y a que quelques raisons pour lesquelles quelqu'un qui croit en Jésus peut ne pas faire de miracle. Soit il n'écoute pas la parole de Dieu, il n'a même pas en pratique. Soit il ne vit pas par amour. Soit il est orgueilleux, c'est-à-dire il s'occupe trop de lui-même et pas suffisamment de Dieu.
Et
il y a l'orgueil, il y a la peur. La peur de quand dira-t-on? La peur si ça ne marchait pas. La peur si ne guérissait pas. La peur, ils vont me trouver bizarre. Mais entre te trouver bizarre et que l'autre soit guéri, qu'est-ce qui est important? Et si tu échoues, où est le problème? Dans tous les cas, tu ne peux pas réussir, ce n'est pas toi qui fais les miracles. Tu n'es qu'un interrupteur. Quand on appuie l'interrupteur, s'il y a du courant, l'ampoule s'allume. S'il n'y a pas de courant, l'ampoule ne s'allume pas. L'interrupteur ne donne pas la lumière. L'interrupteur ne fait que connecter l'ampoule à l'électricité. Si à l'électricité que l'interrupteur ne fonctionne pas, l'ampoule ne s'éclairera pas. Mais s'il n'y a pas d'électricité, tu peux allumer l'interrupteur fatigué, il n'y aura pas d'ampoule. Et personne dans sa maison n'en veut à l'interrupteur quand la SB coupe le courant. Quand vous priez, ne vous comportez jamais comme si vous étiez fournisseur de puissance de Dieu. Vous n'êtes rien, nous ne sommes rien et vous ne serez jamais rien, je ne serai jamais rien. La preuve la plus grande miracle, c'est quand tu parles langue. Tu sais même pas ce que tu dis, les gars se réveillent. C'est toi qui les as réveillés. Toi, tu n'as fait qu'appuyer le bouton. La puissance de Dieu est passée à travers toi pour le
guérir.
Donc, à moins d'être méchant, il n'y a pas de raison de ne pas fermer l'interrupteur. Je vous interpelle, vous qui n'avez encore rien fait, vous êtes méchant. Quand vous voyez la parabole de ceux qui ont reçu des talents, quelqu'un a reçu un, quelqu'un a reçu deux, quelqu'un a reçu cinq. Celui qui a reçu deux et cinq, je crois, l'a fructifié. Dieu dit bon et fidèle serviteur. Bon parce qu'il veut faire du bien aux gens, il connaît le bien, il a de l'amour. Fidèle parce qu'il ne gaspille pas ce qu'on lui a confié. Il ne détourne pas ce qu'on lui a confié. Vous ne pouvez pas être chrétien et détourner la puissance de Dieu par paresse, par méchanceté, par cupidité. Mais le seul qui dit, bon, moi je n'ai pas beaucoup de choses, il vaut mieux que je le cache. Dans la caresse là, quand il va demander sa chose, je vais lui donner. Dieu n'a pas dit Dieu. Il dit méchant et paresseux. Paresseux et méchant. Quand Dieu veut parler du diable, il dit le méchant. La plus grande insulte que Dieu peut faire à un homme, c'est d'appeler méchant. Quand Dieu t'a donné un talent, il t'a mis à cœur, lève-toi, prie pour telle personne. Va dire à telle personne que je le bénis. Va réconforter telle personne. Invite telle personne à venir écouter la parole de Dieu. Va soutenir telle personne. Et tu ne le fais pas? Tu es méchant. C'est le pire que Dieu puisse dire à un homme méchant. Dieu dit qu'il a fait toute chose pour une raison, y compris le méchant pour le jour de son malheur. Si tu es un méchant, il faut savoir que le jour de ton malheur arrive, il n'est pas loin. Arrêtez d'être méchant. Si les autres avaient été méchants, vous ne seriez pas là. Et si vous ne gagnez rien là, vous ne seriez pas là. Pourquoi voulez-vous être méchant?
Ce
n'est pas votre problème. On ne te demande pas de produire la puissance. On ne te demande pas de bougies. Pas de moutons. Pas de poulet. Tu n'as rien à faire. Mets ta main, prie pour la personne. Tu es tellement méchant que tu vois la gens mourir, ça ne te dérange pas. Les hôpitaux sont pleins de malades, ça ne te dérange pas. Les gens m'ont dit, ça ne te dérange pas. Ils sont fous, ça ne te dérange pas. Tu as des frères, quand tu dis mes frères, ils ne connaissent pas le Seigneur. Tu t'en fous qu'ils aient rien à faire. Méchant. Parfois même tu as ta femme qui ne connaît pas le Seigneur, tu t'en fous. Ton mari ne connaît pas le Seigneur, tu t'en fous. Méchant. On n'a pas dit de lui attacher les pieds pour l'amener à l'église.
Mais
prie pour lui. Témoigne pour lui.
Aime-le.
Si tu l'aimes. Si tu pries pour lui. Le Seigneur va travailler. Il a besoin de nous pour travailler. Dimanche prochain, je vais enseigner un message qui s'appelle Révélation de l'âme la plus fatale de Dieu. L'âme la plus fatale de Dieu. L'âme par laquelle Dieu a fini avec Satan. Le Seigneur me l'a révélé tout à l'heure. Et je vais méditer là-dessus toute la semaine. Priez pour moi. Qu'aucun temps, aucune circonstance ne vienne m'empêcher de finir de recevoir ce message. L'âme la plus fatale de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on sauve une personne. Qu'on en sauve deux. Il veut qu'on sauve nos villes. Qu'on sauve nos pays. Qu'on sauve le monde. Écoutez, c'est comme si ce que nous faisons souvent là, c'est comme si on prend un pistolet et on veut aller au Nigeria tuer une personne jusqu'à tuer tout le monde. D'abord, ils vont te tuer avant, parce que dès que tu vas tuer, trois personnes vont te tuer. Même si tu ne te tues pas, quand est-ce que tu vas finir de tuer une personne jusqu'à ils vont tous mourir. Si tu n'as pas la bombe, la bombe atomique, ce que tu peux lâcher et ça change tout. Ce qui permet à Dieu de dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair.
Si vous
voyez bien dans la Bible, il y a un moment avant que Jésus le dit ça, et il y a un moment après. On a vu quelque chose s'est passé quand il a dit Satan est tombé du ciel. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Mais ce n'est pas à nous de produire la puissance. Mais ça ne sert à rien que la puissance soit là et que ta méchanceté la bloque. Arrêtez de considérer que ne rien faire pour le Seigneur, c'est que Jésus n'a pas eu le temps. C'est que tu es méchant. Il n'y a pas deux mots dans la Bible. Méchanceté, ça s'appelle.
Méchant, oui, il y a Dakar.
Moi je viens d'arriver dans la foi. On n'a pas dit les gens qui sont vieux dans la foi, les gens qui en savent beaucoup, les gens qui sont champions. On dit voilà les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À moins que tu n'aies pas encore cru. Dans tous les cas, je ne sais pas ce que tu
dis.
C'est comme si vous êtes dans un quartier où toute la maison, tout le quartier est noir, alors qu'il y a le compteur dans votre maison. Tout le monde crie, il fait nuit, les enfants sont tombés dans les puits, les enfants tombent dans le feu. Et au lieu de, parce que tu as été couché, tu as sommeil, au lieu de faire l'effort de te lever pour aller mettre le compteur qui va éclairer tout le quartier, tu dis, il fait nuit, ils n'ont qu'à rester là-bas. On peut être plus méchant que ça. On peut être plus méchant que ça que d'être à côté de l'interpréteur de la puissance et de jouer le méchant. Voilà ce que vous êtes, des méchants.
Le Et
pour parachever la foutaise, tu dis, Seigneur, il faut sauver les enfants qui sont en train de tomber dans les puits là, il faut les sauver. Alors que la lumière est dans ta maison. Tu vois la foutaise.
Foutaise, ouais.
Et tu pries encore pour que Dieu les sauve alors que la lumière était peut-être dans ta
chambre.
Normalement, nous ne devons agir pas à la foi. Mais quand vous regardez tous les témoignages là, Dieu
est
arrivé à un niveau de désespoir que il n'attend même plus que les gens aient la foi pour leur faire des miracles. Fabrice ne croyait pas, le gars était guéri. Chacun d'entre vous ne croyait pas. Vous n'avez pas vu qu'il a fait le miracle. Et que Dieu ne veut même plus tenir compte de ses conditions. Il dit, même si tu n'as pas la foi, vas-y seulement. Moi, il veut juste un bouton. Et vous restez à la maison. Ce n'est pas de la paresse et de la méchanceté, ça.
Qui vous a dit
que ceux qui ont fait le miracle, ils étaient parfaits, ils n'avaient pas de péché, ils étaient sanctifiés, ils ont pris 10 heures de temps. Ils ont fait quoi d'extraordinaire? Ils ont jeûné 7 jours avant d'aller guérir les gens. Méchant que vous êtes. La parole de Dieu dit méchant. Et il dit que si vous restez méchant, le jour de votre malheur arrive. Réveillez-vous. Jamais vous ne serez béni si vous n'avez pas un cœur qui a du souci pour les âmes perdues. Et quand on parle de leur salut, vous ne voyez que le salut de leur âme. Mais le mot salut est lié au mot sauver. C'est vrai que le plus important, c'est les sauver de l'enfer, ce qui est la nouvelle naissance. Mais c'est aussi les sauver de tout le reste qui menace de les détruire. Les sauver de la maladie. Les sauver de la stérilité. Les sauver de la pauvreté. Les sauver des soucis. Les sauver de la mort. Les sauver de beaucoup de choses. Et dans les témoignages, vous allez voir, le tout n'est pas, il a donné sa vie à Jésus. C'est que Dieu vous utilise concrètement pour éclairer le monde. Nous savons tous que le monde est dans les ténèbres. Et tout le monde parle des ténèbres. Mais toi, tu n'as pas le droit de parler des ténèbres. Il ne peut pas faire nuit, c'est que les ampoules me disent qu'il fasse nuit. Comment le soleil peut dire qu'il fait nuit? Au lieu de bavarder, il ferait mieux de se lever.
Vous
n'avez jamais vu la ténèbre et puis tu allumes même une simple allumette et la ténèbre ne disparaît pas. S'il y a des ténèbres dans ta famille, dans ton entreprise, c'est que tu es ténébreux. Jésus dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. C'est faux, la lumière ne peut pas être quelque part, elle dit qu'il fait nuit. La lumière, même l'obscurité, ça lui permet de montrer qu'elle a de la valeur. Quel que soit le problème de ta famille, dis alléluia, c'est l'occasion pour toi de prouver que tu es lumière. Quel que soit le point auquel les gens autour de toi sont insipides, ont des problèmes, alléluia, c'est l'occasion pour toi d'aller saler leur vie. Le Seigneur dit que si quelqu'un perd le sel, perd de son goût, qu'est-ce qu'on fait avec? On ne peut que le jeter. Si en tant que chrétien, on ne peut pas dire que parce que tu es là, les choses sont devenues douces. Jésus dit qu'il n'y a plus rien à faire que de te jeter.
Jeter, il y a une de ça, il y a une de ça. Jésus a dit, mais il y a une de ça. Et
que quand on te jette, les passants vont fouler sur toi. C'est-à-dire que quand tu ne sers à rien pour sauver les gens, on te jette là où Satan va marcher sur toi. Quand dans ta chambre, il fait nuit, tu arrives comme ça pour allumer la lumière, la lampe ne marche pas. Tu dis quoi? Elle est grillée, tu fais comme ça, tu la mets à la poubelle.
Bien.
Si j'arrive ici, il fait chaud, j'allume le bracelet ne tourne pas, je fais quoi? Je dis enlever, il ne fait rien. Pourquoi vous croyez que vous là, en tant que lumière et sel, si vous ne servez à rien, Dieu va vous laisser dans votre position?
Ah, nous cambions qui. Le bon mitelier, moi, où dois-je me rire? On va y aller. Bon, mais ça, on ne l'ira nous mais le bon, moi, voilà, ça, mais d'offrir mon pique point.
Mais Jésus dit que la racine est, la hache, et la cognée est déjà la racine des arbres, prête à les couper.
Jésus doit dire le menelier à survivre au cono, à tindre au goulet les benaja.
Si un arbre ne porte pas de fruits. Il faut le couper. Et j'attire votre attention sur le fait que Jésus, malgré tout ce que les gens lui ont fait, il n'a jamais, presque jamais maudit, il n'a maudit que deux fois les gens. Il a maudit les pharisiens parce que leur père c'est Satan. Les pharisiens c'est quoi? C'est des croyants. C'est des gens qui connaissent Dieu. C'est des gens qui connaissent Abraham. Ils connaissent la loi. Ils ont reçu tout ça. Comme vous. Ils vont au temple tout le temps. Ils prient. Ils font des sacrifices. Ils connaissent les prophéties. Mais ils ne sont bons à rien. Orgueilleux. Hypocrite. Ils parlent de Dieu. Ils ne vivent jamais Dieu. Ils ne font pas de miracles. Vous avez vu dans la Bible un seul miracle attribué à un pharisien? Jésus les maudit. Il dit malheur à vous. Hypocrite. Vous êtes des tombeaux blanchis à l'intérieur desquels il n'y a que des ossements desséchés. Il dit que les gens de Sodome et Gomorrhe seront traités mieux que ces pharisiens-là. Tu es en train de dire que les homosexuels, les prostituées, les pédophiles et tout ça seront moins sévèrement jugés que toi qui viens tous les jours, qui écoute ici et qui ne fait rien. Je ne sais pas si tu comprends le français. Donc quand tu t'attaques à eux, il faut savoir que tu as plus de problème devant Dieu que... On est assis à l'église de parler des pécheurs dans le monde. Il faudrait mieux savoir que Dieu dit que au jour du jugement, les gens de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire le pire pécheur, sera traité moins sévèrement que toi, le pharisien, qui vient écouter la parole de Dieu, mais qui est un paresseux méchant. Si eux ils sont dans la déperdition, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris qui est Dieu. Non, même s'ils seront punis, ils auront l'excuse de l'ignorance. Mais toi et moi, nous savons. Notre bonheur et en même temps notre malheur, c'est que voilà maintenant nous savons. Surtout si tu as eu la malchance d'écouter ce message, c'est encore plus grave pour toi. Tu peux encore fuir, hein? Parce que plus tu l'entends, moins tu as d'excuses.
Non,
tu ne pourras même pas dire ce jour à Dieu. Seigneur, je ne savais pas. Il va dire, Guy Dibi te l'a dit plusieurs fois.
Je ne savais pas, attends.
La deuxième fois que Jésus a maudit, c'était le figuier. Le figuier. Un arbre qui n'a pas porté de fruits. En plus, le Seigneur vient de me donner une révélation. Le figuier, la Bible nous dit que le figuier n'avait pas de fruits. Alors que ce n'était pas la saison des fruits. Moi, ça m'a tout surpris. Je viens tout juste de comprendre pourquoi le Seigneur vient de me répondre. On dit, et la Bible ne parle pas par exemple, on aurait pu ne pas nous dire que c'est pas la saison pour cacher le fait que Jésus est exagéré. Il va avoir un arbre, un moment il ne va pas avoir de fruits, il le maudit. La Bible aurait pu cacher le détail que ce n'était pas la saison. Mais la Bible nous dit qu'il a maudit alors que ce n'était pas la saison pour qu'il ait des fruits. Il dit que vous qui avez témoin là, est-ce que c'est la saison selon les hommes pour que vous fassiez des miracles? Vous avez dans votre voyage depuis quand? Vous avez fait quelle école biblique? Qui vous a consacré quoi? Si on doit raisonner les lois normales du monde, est-ce que c'est la saison pour que toi tu guérisses quelqu'un, que lui lève un paralytique, que lui guérisse un mort? C'est votre saison pour les hommes? Mais là où il y a Jésus, les saisons s'effacent, ils sont soumis à Jésus. Quand quelqu'un se connecte à Jésus et reçoit la parole de Jésus, toute activité cessante et toute loi oubliée, il obéit à la parole qui a créé la loi. Un homme ordinaire pourrait ne pas trouver de figuier qui n'est pas à sa saison. Mais quand l'alpha et l'oméga, quand la parole qui ne sort jamais sans accomplir ce pourquoi elle est sortie fort, rien dans la création n'a le droit de la faire sortir sans accomplir ce qu'il a demandé. Si la chose le fait, il lui sort une deuxième parole qu'elle sera accomplie. Et bien tu ne portes plus jamais de fruits en fini. Si tu ne portes pas de fruits, quand la parole sort, tu ne porteras plus jamais de fruits. Quelle que soit la saison à laquelle elle est sortie. Tu peux être né de nouveau aujourd'hui. Tu peux être né de nouveau aujourd'hui. Quand Jésus vient dit, impose-lui les mains. Tu n'as pas dit, ce n'est pas ma saison. S'il a dit, c'est que ça s'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa mère là pour l'accomplir. Il a juste besoin que tu te laisses téléguider. Il a juste besoin de ta soumission. Dans ce cas-là, ne pas porter des fruits, ce n'est pas ne pas avoir pu porter des fruits. C'est se rebeller et résister à la parole. Et c'est ça qui est frappé de stérilité définitive à vie. Quand Dieu te dit, va le sauver. Si tu dis, je ne peux pas, rappelle-toi toujours le figuier. Va prier pour lui. Je ne peux pas. Ce n'est pas ma saison. Je suis un jeune chrétien. Je ne connais pas encore le Seigneur. Je suis là depuis 3 mois seulement. Rappelle-toi ce qu'il a fait du figuier. Rappelle-toi bien. Il va te dessécher. Définitivement. Tu ne porteras plus jamais de fruits. En aucune saison. Parce qu'il est le maître des saisons. Il a autorité sur la loi. Quand il vient, il dit donne des fruits. Tu donnes séance tenant des fruits. S'il ne pouvait pas te faire donner des fruits, il ne te dirait pas d'aller entre. Attention, hein. La parole ne sort pas pour venir produire. Quand tu as l'impression que, comme tu dis, quelque chose te dit, prie pour le gars-là. Il vaut mieux te tromper, prier pour lui que rien ne se passe. Que te tomber ne pas prier pour lui alors que c'était la parole qui disait de prier pour lui. Quand quelque chose te dit fais-le, si ce n'était pas la voix de Dieu que tu le fais, rien ne se passera. Tu pries pour Marie, il n'est pas gris. Qu'est-ce que ça t'enlève? Mais si se faisait, comme c'est souvent le cas, que c'était la parole qui est sortie, que c'est Jésus qui parlait, et que prétendant tu n'es pas en ta saison, tu n'as pas réagi. Il ne faut pas trop que je parle pour ne pas dire que c'est moi qui ai prophétisé. Rappelle-toi le figuier seulement. Rappelle-toi le figuier. Et tu découvriras pourquoi tu es dans le vent du poisson, dans le noir depuis. Il y a des gens qui sont enfermés dans le vent du poisson comme Jonas depuis. Vous avez l'impression d'être prisonnier du même environnement stérile et pourri.
Il fait noir.
Vous n'avez pas une grande mobilité, vous pouvez pas aller loin. Le vent d'un poisson n'est pas très grand, hein. Le vent d'un poisson n'est pas très grand. C'est humide. Ça sent mauvais. Vous ne pouvez pas voir très loin parce que vous êtes rouillé de partout. Quand, de temps en temps, dès que le poisson vogue un peu, vous êtes secoué de l'intérieur, vous ne savez même pas si vous arrivez. Le temps de vouloir te caler quelque part, le poisson fait comme ça, tu tombes encore. Et tu es ballotté, tu ne sais pas par quoi. Le Saint-Esprit dit que tu es dans le ventre de Jonas. Pourquoi Jonas était dans le ventre du poisson? Dieu dit, va leur dire. Va prophétiser. Va enseigner. Va parler de ma part. Je prends le chemin contraire, je vais m'occuper des affaires d'abord. Mon travail est important. Je vais aller m'occuper de ma famille et de mes enfants. M'occuper de mon boulot. Peut-être quand je serai à la retraite, je vais servir Dieu. Et il oublie que tout appartient à Dieu. Comme le dit, je crois, le psalmiste, où veux-tu te cacher loin de la face du Seigneur? Dans la tombe, il est là. Où veux-tu te cacher? Il a pris bateau, il voulait fuir. Il a pris un bateau, il voulait fuir. La tempête dit au ceux qui étaient avec lui, si vous ne le lâchez pas là, je vous engloutis tous. Quand vous touchez quelque chose, ça se termine mal. Mais quand les gens se séparent de vous, ça marche bien pour vous, vous êtes tout dans le problème. Vous portez la malédiction. Mais quand Dieu vous fait tomber dans l'eau, il ne vous fait pas mourir immédiatement. Il vous rend prisonnier du poisson. Et vous restez prisonnier dans le ventre. Vous souffrez dans le ventre. Vous ne mourrez pas. Mais vous souffrez. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes prisonnier. Jusqu'au jour où, comme Jonas, vous direz, Seigneur, haut les mains. Maintenant, sors-moi, je suis prêt à les servir. C'est moi, je vais t'obéir. C'est moi, je vais les sauver. C'est moi, je vais prier pour eux. C'est moi, je vais guérir. À l'instant où il a dit ça, le poisson s'est ouvert. Dieu l'a relâché sur la plage. Tu sortiras de la prison quand tu seras prêt à aller servir Dieu. En attendant, toutes tes affaires sont dans le vent du poisson. Je ne sais pas quel client tu auras là-bas. Il n'y a pas de promotion dans le vent du poisson. Les fournisseurs de voitures, de maisons ne peuvent pas en apporter dans le vent des poissons. Si le vent du poisson est confortable pour toi, reste là-bas longtemps.
Il
faut demander aux gens de Global. Dieu leur a déjà montré ce que nous disons là. Il faut demander aux gens de Global. Dieu leur a déjà montré ce que nous disons là.
Ils
vont vous décrire comment Dieu met les gens dans le vent du poisson. Je trouve que l'église n'est pas gentille avec les croyants. Tant que les gens viennent s'asseoir et que le pasteur ou le prêtre est content de parler devant des gens, que les gens l'applaudissent, ils chantent un peu, ils donnent un peu de dîmes, un peu d'offrande, on s'en fout de tout le reste. Mais votre présence ne me sert à rien.
si votre vie ne porte pas de fruits. Oh, je sais que je ne peux rien faire pour vous. Je n'ai pas fini de régler mes problèmes, je ne peux pas régler les vôtres. Maintenant, celui qui peut régler le problème à nous tous, il a dit quelque chose. Pourquoi vous voulez ignorer ce qu'il a dit pour faire ce que vous voulez? Dieu ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous voulez être sauvé à votre manière sans tenir compte de ce que Dieu a dit du salut. Dieu n'a pas dit que le temps que vous passez à prier déterminera le niveau de votre bénédiction. Il n'a pas dit que plus vous allez pleurer, plus il va vous bénir. Mais il dit que tu vas être en bonne santé et prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Or, si ton âme était prospère, tu saurais tout ce que je suis en train de dire, tu l'appliquerais tous les jours. Lisons Éphésiens 3, partie du verset 17. Ce n'est pas le message que j'ai préparé pour aujourd'hui. Mais le Seigneur a fait un autre message. Je lui rends grâce, il est souverain. Vous ne m'appartenez pas, vous êtes ses fidèles. C'est lui qui dit ce qu'il veut quand il veut. La parole de Dieu nous dit ceci. Que le Christ habite dans vos cœurs. Par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous recevrez toute la vie de Dieu. Et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église et par Christ Jésus. Dans tous les temps et pour toujours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons déjà parlé beaucoup d'amour. Et nous continuerons de parler d'amour. Nous venons de Lomé, où on y était hier. Nous avons donné un séminaire sur l'amour. Et le Seigneur a encore fait des miracles dans beaucoup de vies par ce message d'amour. Nous parlerons encore d'amour pendant longtemps. De même que nous parlons de gagner des gens, de sauver des gens, parce que c'est l'une des meilleures manières de manifester l'amour. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Quand vous donnez votre vie à Jésus, Christ habite en vous. Il n'y a rien d'autre qui doit se passer pour qu'il vienne. Vous n'êtes pas censé dire: Seigneur, viens à moi. Cet esprit, viens à moi. Il est là. La foi, c'est de croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que quand vous avez donné votre vie à Jésus, il est là avec vous tous les jours et pour toujours. Tout ce que nous disons n'est pas possible si vous ne réalisez pas que Christ est en vous. Comment tu peux te présenter devant quelqu'un qui est malade, qui est tenu par Satan, Et en te regardant toi-même avoir le courage de lui rendre ministère. Qui toi tu
es?
C'est pas ignorant, c'est manque de foi que vous doutez face au miracle. Votre premier réflexe humain face au problème, c'est de vous regarder pour dire, mais est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le régler? La réponse est toujours et naturellement non. Toute personne qui face au défi de rendre ministère se demande s'il peut, ne peut que se répondre non, parce que oui, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas, personne n'a jamais pu. Même Jésus n'a pas pu. C'est le Christ qui a pu. Il a fallu que le Saint-Esprit descende sur lui pour qu'il puisse. On n'est pas fini de comprendre encore le pouvoir du Saint-Esprit. Et on va encore l'enseigner, le réenseigner. Mais Jésus, même en tant qu'homme, ne pouvait pas faire grand-chose. Mais il a vécu avec Pierre pendant longtemps. Il a évangélisé Pierre. Il a fait des miracles à Pierre. Il a réveillé des morts devant Pierre. Il a été transfiguré devant Pierre. Il a fait marcher sur les eaux à Pierre. Est-ce que ça a empêché Pierre de le renier trois fois en une nuit quand une femme lui a demandé s'il connaissait Jésus? Il n'y a rien à faire pour que les hommes se comportent bien humainement. Sinon, quand quelqu'un t'a fait marcher sur les eaux, quand même, qu'est-ce que tu veux voir encore pour moi?
Mais on doit pas dire son ligue de dit.
Non, en tant qu'un fils de l'homme, Jésus, le fils de l'homme, lui-même a échoué à transformer Simon en Pierre.
C'est
pour ça qu'il dit qu'il est meilleur, il est avantageux que lui parte et qu'il envoie la puissance, le Saint-Esprit. Qui viendra? Jésus l'a dit, il est meilleur que moi. C'est ce qu'on appelle l'avantage. À la minute où le Saint-Esprit est venu, ce Pierre-là est sorti, zélé, puissant, faisant des miracles. Il a guéri, sauvé 3000 personnes en une matinée.
Quand
le Saint-Esprit a rencontré Saul, il a fallu combien de temps pour qu'il devienne Paul instantanément? Quand le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, habite dans vos cœurs, par la foi, vous ne pouvez plus avoir ces peurs, ces inquiétudes, ces hésitations, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Bon, vous voyez, il y a si c'est mi-méon, bio-mi-méon. Bon, mais ça, si quoi d'occasion, il y a des gens qui ont été en train de se faire, et vous
pouvez alors tout par celui qui vous fortifie. Parce que vous avez reçu le pouvoir d'imposer les mains aux malades et qu'ils guérissent le jour où vous avez confessé Jésus. Vous avez reçu le pouvoir de déclarer aux gens une année de grâce de l'Éternel. Vous avez le pouvoir de décréter la vengeance de Dieu sur tous les esprits mauvais dans leur vie. Vous avez le pouvoir de boire des breuvages mortels, ils ne vous feront rien. Et vous avez reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une question bête que de se demander si vous pouvez. Par la foi, Christ est en vous, donc tout ça l'est réglé. Mais c'est comme quand je mets le courant électrique dans cette ampoule. On ne peut pas me demander si l'ampoule peut s'allumer. Si je ferme l'interrupteur, s'il y a le courant, c'est que l'ampoule va s'allumer. Quand il fait sombre, par la foi, j'ose croire que la SBE n'a pas encore levé le courant. J'appuie l'interrupteur, ça s'allume. Mais si il y a l'obscurité, je dis bon, c'est sûr que l'ASB est encore coupé. C'est même pas la fin de me lever pour allumer l'interrupteur. Je vais rester toute la nuit dans l'obscurité alors qu'il y a le courant. Le problème, c'est que la SBE, c'est des hommes incompétents et non fiables. Dieu est fidèle, il ne manque jamais au rendez-vous. Comme il n'y a pas de délestage dans la puissance de Dieu, il n'y a pas de raison que tu refuses d'appuyer l'interrupteur qui te dit de bouger. Plongez vos racines dans l'amour. Et soyez solidement construits sur cet amour. C'est de la racine que tout arbre tire sa nourriture, sa force et tout ce qui le fait vivre. Si un arbre va bien grandir, c'est la racine qui va puiser dans la terre la nourriture. Si la racine est dans du sel, il n'y a aucune chance que l'arbre grandisse. Si par exemple à un certain niveau la terre n'est pas bonne, si votre racine est capable d'aller en profondeur toucher la bonne terre, vous allez prospérer comme arbre. Dieu vous dit que si vous plongez vos racines dans son amour, plonger, c'est-à-dire aller en profondeur, trouver son amour. Et si vous avez son amour, vous allez l'aimer. Vous allez vous aimer et vous allez aimer les autres. C'est les trois domaines de l'amour. Parce que souvent, je dis, le problème de Bénin, ce n'est pas seulement de ne pas aimer les autres. Les gens ne sont même pas capables de s'aimer eux-mêmes. C'est pas par hasard que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Nous sommes dans un pays où les gars ont de l'argent sous le matelas et pour faire économie, ils meurent de parler au lieu de l'hôpital. Mais nous sommes dans le pays où quelqu'un peut s'endetter pour aller enterrer sa belle-mère, mais il ne peut pas s'endetter d'un montant qui fait la moitié du montant de l'enterrement pour s'acheter une moto.
Il
y a des gens qui sont malades, il leur faut 10 000 francs pour aller à l'hôpital. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, pas orgueil, ils n'iront pas se soigner. Un grand artiste de ce pays est mort comme ça. Parce qu'il était trop orgueilleux pour aller demander à prêter les 10 000 francs pour se sauver. Mais si un enterrement dans sa famille qu'on demande les 10 000, il n'hésitera pas 5 000 pour les prêter pour aller payer.
C'est-à-dire
que celui-là n'aime même pas sa vie autant qu'il craint la famille. Celui qui ne s'aime pas, comment il peut aimer les autres alors qu'on a dit d'aimer les autres comme soi-même. Plongez votre racine dans l'amour. Et dit, soyez solidement construit. Donc, vos fondations doivent être dans l'amour et verrouillées dans l'amour. Parce que l'amour est la fondation. L'amour peut tout. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. L'amour est prêt au sacrifice. L'amour est fidèle. L'amour veut du bien aux autres. L'amour intercède pour les autres. L'amour ne se met pas en colère. L'amour dit la vérité. L'amour ne fait pas des choses qu'il ne peut pas avouer. Aimez-vous, aimez les autres, aimez Dieu. C'est la racine, c'est la fondation de la puissance de Dieu dans votre
vie.
Et Dieu nous dit à partir du verset 18, écoutez bien, que si vous êtes ainsi plongé dans l'amour, si vos fondations sont ainsi bâties sur l'amour, alors, non, c'est une déduction. Vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais comprendre ce qui suit là tant que votre fondation n'est pas dans l'amour, tant que votre racine n'est pas dans l'amour.
C'est
pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent tout, ils n'arrivent pas à croire malgré tout ce qu'ils font, la puissance de Dieu. Sans amour, tu ne peux même pas avoir de la foi. C'est ça que dit la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur. C'est-à-dire que il y a des chrétiens qui croient que Dieu est grand, hein, mais ils sont ici, ils ont des problèmes parce que l'amour de Dieu s'est arrêté là. Des fois je prie, on me demande, mais même pour ça là tu vas prier? L'amour de Dieu va de l'extrémité est à l'extrémité ouest du monde. Il n'y a pas sur la latitude, là où tu veux être, l'amour de Dieu n'est pas. C'est ça que la Bible dit en disant, tu vas comprendre la largeur de l'amour de Dieu. La longueur. À quel niveau ton problème est et l'amour de Dieu n'arrive pas là-bas? Où se trouve celui qui te fatigue et l'amour de Dieu n'a pas pu atteindre cette longueur-là? La hauteur. Quelle est la hauteur de ton problème? Pour que sa hauteur dépasse la hauteur de Dieu. La profondeur. À quel point il est enraciné? Quelle est sa solidité? Où se cache-t-il sous la terre et dans les abîmes? Et l'amour de mon Dieu ne va pas le trouver. Dans quelle profondeur de problème tu es? Tu penses que Dieu n'arrive pas à ce niveau de profondeur de problème? De quoi rêves-tu? Tu crois que ça là c'est trop haut pour l'amour de Dieu? Bon, il ne faut pas espérer, je suis déjà trop haut dans mes rêves. Dieu ne peut pas faire ça. C'est quand tu n'as pas d'amour pour Dieu, pour les autres et pour toi, que tu es incapable de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour. Il dit ensuite, vous connaîtrez cet amour. C'est pas amour héros que vous dites là, il dit cet amour. L'amour de Dieu. C'est l'amour total de Dieu. C'est l'amour par lequel Dieu a tout créé. C'est l'amour qui fait que Dieu nous aime. C'est-à-dire, je sais pas comment on dit, c'est l'amour amour. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Et que tu ne pourras jamais rien découvrir avant de mourir, qu'il soit plus puissant que l'amour de Dieu. Écoutez, ailleurs, Paul dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les principautés, rien ne peut nous priver de l'amour de Dieu. Vous comprenez français? Même les anges ne peuvent pas me priver de l'amour de Dieu. Même la mort. On estime que la mort est la fin de tout. Dieu dit que la mort ne peut pas arrêter son amour. Si tu as de l'amour, tu vas chasser la mort, le gars va se
faire.
Même si c'est des anges qui sont en mission pour Dieu, si tu viens avec l'amour, ils vont d'abord bouger. Et je vais t'expliquer pourquoi ça dimanche prochain. Mais il continue en disant quelque chose de terrible. Écoutez bien. vous recevrez toute la vie de Dieu. On dit blagadamansu ondo. Et là, la parole de Dieu, c'est la première fois que je vois une parole de Dieu aussi puissante et je dirais même prétentieuse que ça. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Il continue. Et il habitera totalement en vous. Est-ce que vous comprenez français? Et il termine en disant, Dieu agit en nous avec puissance. C'est-à-dire quoi? Si tu es plongé dans l'amour de Dieu, si ta fondation c'est l'amour de Dieu, si tu vis l'amour de Dieu et que tu as réalisé quelle est sa largeur, tu as cerné sa longueur, tu mesures sa hauteur et tu as sondé sa profondeur, si tu connais ça vraiment, si tu connais vraiment cet amour qui surpasse tout, il n'y a rien que Dieu a que tu n'as pas. Tout Dieu est dans ta vie. Vous savez, quand Dieu veut dire des choses qui sont difficiles à croire, il le dit en deux fois. Parce qu'on peut se dire après, que, est-ce que c'est exactement ce qu'il voulait dire? Il dit par exemple, la parole a tout créé. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. Dieu fait la tautologie en passant de l'affirmatif au contraire du négatif. Quand il veut bien marteler quelque chose qui est difficile à croire. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire la même chose. Mais c'est pour vous empêcher de comprendre ça autrement que par ce qu'il veut dire. Ici, Dieu dit, vous recevrez toute la vie de Dieu. Et il habitera totalement en vous. Il agit en nous avec puissance. C'est-à-dire que quand vous allez comprendre le pouvoir de l'amour, il n'y a rien que Dieu puisse faire dans sa puissance que vous ne pourrez faire. Puisque tout Dieu qui est toute sa puissance sera en vous. Et que toute la vie de Dieu par laquelle Dieu est Dieu sera en vous. C'est pour ça que Jésus dit que vous serez alors un avec Jésus. Et comme Jésus est un avec son Dieu, vous serez un avec Dieu. Est-ce que vous réalisez l'immensité de cette révélation? De ce qui fait que tout Dieu peut venir en vous? Et que toute la substance de Dieu est en vous? Quand par exemple vous voyez quelqu'un de malade et vous avez peur de prier pour lui, et que vous dites que peut-être que Dieu n'a pas envie de le guérir, c'est parce que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Ou bien vous dites il est certainement pécheur, comme il est pécheur peut-être que Dieu ne veut pas le guérir, c'est parce que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Ou bien est-ce que Dieu va vouloir m'utiliser qui moi je suis, parce que tu ne connais pas l'amour de Dieu. La peur ne vient que quand on ne connaît pas Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Quand vous allez comprendre l'amour de Dieu et prier vraiment que le Saint-Esprit nous le révèle davantage. Parce que quand nous allons comprendre l'amour de Dieu, toute la vie de Dieu sera en nous si nous le pratiquons. Et il dit que dans ce cas, quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire plus que ce que nous demandons. Parce qu'il est tout en nous. Parce qu'il n'y a pas de limite. Méditez cela. Sortez de la méchanceté. Sortez de la paresse. Réalisez par la foi que Christ est dans votre cœur. Et que la seule chose qui l'empêche d'être entièrement en vous, ou de manifester toute sa puissance en vous, ou de déployer toute sa vie en vous, c'est que vous êtes une matière résistante à l'énergie de sa puissance. Si je branche 1000 watts sur du plastique, rien ne se passe. Parce que le plastique ne conduit pas le courant.
Et
si je branche 1000 watts sur le moteur, le moteur démarre puissamment, peut faire 200 km à une voiture. Dieu est branché à vous. Mais sans que vous êtes du plastique spirituel, avec un cœur de pierre, l'amour de Dieu rentre. Il est bloqué comme quand le courant rentre dans le plastique. Ça ne sort plus. On peut mettre 10 000 watts en vous. Ça ne sert à rien. Même si Dieu met son générateur en vous, votre cœur caoutchouc, rien ne se passera. Mais si votre cœur est un conducteur de la puissance de Dieu, quand il reçoit l'amour de Dieu, il donne l'amour de Dieu, vous êtes alors un fil hyper conducteur. Si on branche même 110 volts sur vous là, des choses terribles se passent à l'autre bout du fil. Dieu vous attend. La balle est dans notre camp. C'est à nous de changer notre cœur. C'est à nous d'être des gens manifestant l'amour pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. Et alors, toute la vie de Dieu, tout Dieu sera notre partage. Et nous ferons beaucoup plus que nous espérons par sa puissance qui agit en nous. Que le Saint-Esprit vous en convainque, qu'il brise dans votre vie toutes les barrières qui empêcheraient cela de s'accomplir et qu'il fasse de vous des vrais fils de Dieu en déplacement dans ce pays. Que Dieu vous bénisse.